Ce matin, on va parler d'un mot qui fâche. Un mot qui fâche, parce que c'est le mot de soumission. Le mot de soumission est un mot qui n'est plus à la mode, si jamais il l'a été. Et avant d'entamer notre lecture de notre passage, ce matin, j'aimerais relire une exhortation que l'on trouve dans Romains 12. Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères. » Lorsqu'il dit « frère », c'est générique, c'est comme les hommes, ça recouvre à la fois les hommes et les femmes. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une invitation, une exhortation, c'est-à-dire un sérieux encouragement à ne pas nous laisser influencer, mouler par le monde, c'est-à-dire par l'ensemble de la société qui rejette l'enseignement biblique, qui rejette l'existence de Dieu, qui rejette sa primauté dans nos vies. Et au contraire, ce serait à nous, par la parole, la vérité que nous recevons, d'être à même d'influencer le monde. On habite dans une société qui pense avoir fait de grands progrès par rapport à l'obscurantisme biblique, tout ça entre guillemets, c'est pas mon point de vue, mais pour beaucoup de nos contemporains, la Bible s'est dépassée. Dans bien des domaines, le domaine par exemple de la discipline des enfants. Discipline des enfants, surtout ne pas corriger les enfants, mais raisonner avec eux. Ça, c'est l'enseignement du monde. La Bible dit qu'au contraire, si on retient la baguette de discipline, on va pourrir l'enfant. On va pas lui faire du bien. Alors bien sûr, il y a toujours les abus qui font que un enseignement biblique est rejeté, et à juste titre. L'idée qu'on doive tabasser nos enfants pour les faire obéir, c'est pas biblique. On verra dans la suite d'Éphésiens qu'il y a plein de conseils pour l'enseignement des enfants. Mais la meilleure preuve de l'enseignement, de la véracité, de la pertinence, de la justesse d'un enseignement, c'est pas la théorie. C'est le résultat pratique. Et avec notre société où les enfants sont les rois, où on ne les corrige pas, on voit qu'on n'a jamais eu autant de délinquance, on voit qu'on n'a jamais eu autant de problèmes de jeunes. Et donc, on ne devrait pas avoir honte de remettre en cause ces enseignements qui interdisent toute discipline de nos enfants. De la même façon, on pense que le mariage chrétien, c'est quelque chose de dépassé. C'est quelque chose d'archaïque. Maintenant, vive l'union libre. Non, parce qu'il n'y a pas d'avantages fiscaux. Donc, vive le Pax! Et puis, pourquoi se cantonner à une relation entre homme et une femme? Si deux êtres s'aiment, ils ont le droit de vivre ensemble, d'avoir des relations sexuelles. Donc, vive l'homosexualité, le mariage des homosexuels. Et pourquoi pas l'adoption des enfants par les homosexuels? Et on voit que de plus en plus, notre société se tombe en déliquescence. C'est un sujet très, très douloureux parce que nous sommes tous affectés par ça. Je suis sûr que parmi nous, il y a plein d'hommes et de femmes qui peut-être sont impliqués dans ces situations ou peut-être qui ont été victimes de ces situations. Encore une fois, Dieu ne déclare pas quelque chose comme étant péché pour nous interdire d'avoir du plaisir ou du bonheur. Le péché est interdit parce qu'il nous fait du mal. il est très important de revenir à l'enseignement biblique, de le considérer, au moins, et puis de peut-être de le mettre à l'épreuve et de voir ce qu'il donne. On va lire Éphésiens 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Encore une fois, Paul s'adresse à des croyants et il dit « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Un enseignement qui, j'en suis sûr parmi nous, parmi certains d'entre nous, provoque une réaction en disant « Mais on a fait des progrès depuis ça quand même ». Les femmes ne sont pas moins intelligentes que les hommes. Elles sont capables de faire toutes les choses que les hommes sont capables de faire. Pourquoi est-ce qu'elles devraient se soumettre? Il y a même une organisation qui s'appelle « Ni pute, ni soumise ». Alors, le premier mot, j'ai un peu du mal à le prononcer, il est enregistré, c'est un mot grossier. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot « soumise » est mis au même niveau dans notre société que le mot « pute ». Est-ce que vous réalisez ça? La soumission, c'est un mot tabou. Soyez soumise. Oh, je ne peux pas croire que Pierre ait dit ça. C'est pas possible. Attendez, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors on va explorer un peu et on va voir que c'est pas aussi scandaleux que ça en a l'air. Et qu'en fait, c'est même source d'équilibre, source de bonheur, source de joie. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Soumission. Mise, être mis dessous. En grec, c'est hypo, ça veut dire hypo, hypoglycémie, on n'a pas assez de sucre, on a le sucre en dessous, hypotasso. La prochaine fois que vous voulez rappeler à votre femme quelque chose, on va voir que c'est complètement déconseillé, mais vous pouvez penser dans votre tête « hypotasso ». En fait, ça serait à la femme de se rappeler ça. On va voir que l'apôtre s'adresse aux femmes et aux hommes. Mais il ne dit pas aux hommes de rappeler à la femme ce qui a été dit à propos de la femme, ni à la femme de rappeler à l'homme ce qui a été dit à propos de l'homme. Il s'adresse à chacun de nous pour qu'on mette en pratique ce qui nous concerne. et on lui fait confiance pour le reste. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. La Bible nous encourage à donner la dîme. On se dit, mais attends, j'ai même pas de quoi payer mon loyer, comment est-ce que je vais prendre 10% de mes revenus pour les donner à l'œuvre de Dieu? C'est une question de foi. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de pourvoir ou pas? L'obéissance, c'est une question de foi. Femme, soyez soumise à votre mari. Upo tasso, êtes-vous sous votre mari? Mettez-vous dessous. Est-ce que c'est à dire que la femme est inférieure à l'homme? Qu'elle n'est pas aussi forte, qu'elle n'est pas aussi belle, qu'elle n'est pas aussi intelligente, qu'elle n'est pas aussi capable que l'homme? Non! Ce mot de soumission, c'est un mot du vocabulaire militaire. Dans une armée, il y a une hiérarchie. Le lieutenant doit se soumettre au colonel, au commandant, au capitaine. Il a un grade inférieur en grade. Ça ne veut pas dire que le lieutenant n'est pas un homme aussi riche, aussi intelligent. Il est sans doute plus jeune que le colonel. Ça ne veut pas dire qu'il est inférieur, mais il doit fonctionner dans une hiérarchie. S'il n'y a plus ce respect de la hiérarchie dans le monde militaire, c'est la pagaille. Si le lieutenant donne des ordres contraires au colonel qui a une vision d'ensemble, on peut l'espérer, plus grande que celle du lieutenant qui s'occupe d'une section, ça va être la défaite assurée, ça va être la pagaille. De la même façon, dans la création, il y a un ordre, il y a une hiérarchie. 1 Corinthiens 11, 3. Si vous voulez vous y tourner, 1 Corinthiens 11, 3, page 195. Je veux, c'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. On voit une chaîne de commandement. Dieu le Père, Christ, Dieu le Fils, l'homme qui est sous le Christ et la femme qui est sous l'homme dans le mariage. Encore une fois, je veux préciser que ces considérations ne s'appliquent pas à la femme par rapport à tous les hommes ou à l'homme par rapport à toutes les femmes. C'est dans le cadre du mariage que l'homme est le chef de la femme. Chef, ça veut dire que c'est lui à qui revient la direction du couple. C'est une direction, ça ne doit pas être une domination. Jésus a dit qu'il n'avait pas regardé, il est dit dans Philippiens 2, qu'il n'avait pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, il y a une relation de subordination qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas égalité. De la même façon, il n'y a pas d'inégalité entre l'homme et la femme au niveau de leurs qualités intrinsèques. C'est simplement au niveau de la hiérarchie dans une relation qu'il faut que cette chaîne de hiérarchie soit respectée pour le bien de tous, pas seulement pour le bien de l'homme qui peut dominer. Encore une fois, il ne s'agit pas de dominer, il s'agit de diriger. On pense qu'on est très évolué dans notre société du 21e siècle. En fait, on retourne au paganisme d'antan. Il faut savoir que Paul s'adressait à une culture, la culture gréco-romaine, dans laquelle on considérait que un homme avait besoin de trois types de femmes dans sa vie. Il avait une femme mariée qu'il avait épousée. Elle, c'était pour lui donner des enfants et s'occuper de la maison. Après, pour s'amuser, pour vivre au quotidien dans le plaisir, dans la relation sexuelle, il avait des concubines. Et puis, pour vraiment s'éclater, il y avait les prostituées. Donc, je crois que c'est Socrate qui disait « Il est normal qu'on ait des prostituées, des concubines et une femme qui s'occupe de la maison. » De dire à cette société qu'en fait, il y avait un homme et une femme, c'était scandaleux, aussi scandaleux que lorsqu'on prononce le mot de, entre guillemets, soumission, soumise, oh non. On a fait le tour de la chose et on revient maintenant où de déclarer ces principes, c'est quelque chose de choquant dans notre société. Je lisais un commentaire qui a été écrit dans les années 50, qui lui, l'auteur, pensait que ces choses-là étaient maintenant choses admises. Dans les années 50, le mariage, c'était quelque chose de sacré, le divorce, c'était quelque chose d'exceptionnel. Le mariage, c'était quelque chose qui durait toute la vie. Maintenant, c'est on se marie jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de mieux, quelqu'un de mieux. Que la femme soit soumise, de la même façon, je l'ai dit encore, Jésus était soumis, il faisait la volonté du Père. Pas que ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et encore une fois, c'est nullement abaisser Jésus-Christ que de le dire sous le chef de Dieu. C'est biblique, c'est un mystère pour nous. Et on voit que, en fait, dans le mariage, la relation du mariage, Dieu essaye de nous expliquer de façon concrète, c'est une leçon de chose, de la relation des choses spirituelles. À tel point qu'on l'a vu plus bas, il compare la relation entre l'homme et la femme à la relation entre Christ et l'Église. Il viendrait, normalement, je pense, à personne l'idée de contester que Christ doit être le chef de l'Église. Le chef de l'Église, ici, c'est pas Pierre. C'est pas les anciens. Le chef de l'Église, prions que ça soit et que ça reste toujours Christ. Il est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. J'étais attristé cette semaine par le divorce de notre président, de même que j'ai été attristé par le divorce ou la séparation de, puisqu'ils n'étaient pas mariés, de Ségolène et François, Ségolène Royal et François Hollande. Pourquoi ? Pas parce qu'il ne montre pas l'exemple biblique, ça c'est dommage, mais c'est pas ce qui m'attriste. Ce qui m'attriste, ça a été un commentaire du président Sarkozy. Les journalistes, vous le savez, depuis plusieurs semaines, essayent d'en savoir plus. Ils ont essayé d'avoir des commentaires. Ça se vendrait bien, des réflexions sur des critiques de Cécilia par Nicolas ou l'inverse. Il a parlé mercredi dernier devant le Conseil économique et social, il a parlé de la pauvreté et il n'a pas pu s'empêcher de faire allusion à la solitude, faisant probablement allusion à la solitude qu'il rencontre dans sa vie sentimentale en ce moment. Peut-être qu'il a d'autres maîtresses, j'en sais rien, c'est pas. Mais il a eu ces mots. Il a parlé de la solitude poisseuse, celle qui vous englue, qui vous colle à la peau, celle qui oppresse, celle qui naît de la privation de l'écoute, du soutien, du regard de l'autre, celle qui fait oublier le sentiment d'aimer et d'être aimé. On sent là la détresse de quelqu'un qui est profondément blessé dans son être intérieur. Parce que le mariage a été institué pour plusieurs raisons, sans doute. Mais la première raison, ça a été pour qu'on ait un compagnon, une compagne. Encore une fois, je sais que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Il y a des mamans célibataires, il y a des hommes célibataires, peut-être des divorcés, des gens qui ne se sont pas mariés, des gens qui... Peu importe. On ne parle pas du passé, on écoute ce que Dieu nous dit et on essaye de marcher avec lui. À tout moment, on peut remettre les pendules à l'heure et être avec Dieu. La semaine prochaine, une heure de plus de sommeil, en parlant de pendule. Genèse 2. Alors certains pensent que c'est un mythe fondateur. Eux, ils savent bien que ce qui s'est passé, c'est rien. Tout a été créé à partir de rien. Comme ça, par un Big Bang. On ne sait pas d'où il est venu, on ne sait pas qui l'a causé, mais la Genèse est un récit historique. On sait qu'après avoir créé l'homme et les animaux, Genèse 2,18, l'Éternel a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Nicolas Sarkozy vient de s'en faire l'écho. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Ezer Kednego, en hébreu. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, mais des fois j'aime bien noter les paroles dans la langue originale. Upotasso, Ezer Kednego. Parce que ça montre que ce sont des choses qui viennent de loin, ce sont des choses qui nous dépassent. Une sagesse que Dieu a permis de transmettre à nos oreilles aujourd'hui. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Waouh !» C'est ce qui est dit en hébreu. Je rajoute juste un peu, mais c'est l'idée. « Waouh ! Cette fois, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera Isha, femme, car elle a été prise de l'homme, Ish, en hébreu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et la femme ont été créés par Dieu pour avoir une relation de compagnonnage, une relation de vis-à-vis. Il n'a pas pris un bout du métatarse de l'homme, un bout de son pied, pour former une femme et dire que oui, elle est sous ton pied, tu peux la dominer, elle te sera soumise. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a pris la côte. Il aurait pu prendre aussi un morceau de son pariétal, de son crâne, et puis dire, comme ça, elle est supérieure à toi. Non, il les a fait hommes et femmes. Le christianisme a fait plus que toute autre philosophie, toute autre religion, pour le respect des femmes. Encore une fois, on voit qu'il est survenu dans une société où la femme était considérée comme du cheptel. On achetait une femme. On donnait de l'argent à son mari, à son père, et on l'a possédée comme on possédait des vaches ou des moutons. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. la femme, mesdames, vous avez, mesdemoiselles, vous avez autant de valeur aux yeux de Dieu que n'importe quel autre homme. Mais Dieu, dans sa sagesse et dans son amour des hommes et des femmes, a créé le mariage. Et dans le mariage, il y a une hiérarchie qui doit être respectée. Il viendrait à l'idée de personne, encore une fois, de rejeter la suprématie de Christ comme chef de l'Église. Ou alors, si on le fait, on tombe dans une organisation peut-être de bienfaisance ou une ONG, une organisation non gouvernementale qui veut faire du bien, quelque chose d'humaniste. Non, dans l'Église, Christ est le chef. L'Église doit se soumettre au Christ, pas pour être abject, se sentir être un paillasson devant le chef de l'Église, mais pour recevoir de lui son amour, et que les femmes donc se soumettent en tout chacune à son mari. Soumission des épouses dans le mariage. Est-ce que ça veut dire qu'une femme doit faire tout ce que son mari peut lui demander de faire? Non. Il est dit, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Ça ne veut pas dire comme en le considérant comme votre supérieur, au point que vous l'appelez le Seigneur, comme qu'il prenne la place de Dieu. Non, il n'est pas question que l'homme prenne la place de Dieu. L'homme est homme, il est mari, il est peut-être chef de la femme, mais il est sous l'autorité du Christ. Comme au Seigneur, ça veut dire que ce n'est pas une limitation. C'est plus une motivation. Vous le faites parce que vous allez ainsi plaire à Dieu, parce que c'est sa volonté. Si votre mari vous demande de tricher, lorsque vous faites votre feuille d'impôt, vous n'avez pas à le faire. Si dans le domaine de la sexualité, il vous demande de faire des choses qui sont contraires à l'esprit, à la volonté de Dieu, vous n'avez pas à lui obéir. S'il vous tabasse, s'il vous frappe, s'il vous manipule psychologiquement, vous n'avez pas à vous soumettre. Vous pouvez être séparés. Vous pouvez, encore une fois, Jésus a dit Moïse avait permis le divorce, non pas parce que c'était l'idéal de Dieu, mais c'était à cause de la dureté de nos cœurs. Là aussi, c'est un autre sujet que le divorce. C'est un sujet qui est très délicat parce que c'est un sujet douloureux pour la plupart d'entre nous. Nous connaissons tous, si nous ne sommes pas nous-mêmes partie prenante dans un divorce parce que nos parents ont divorcé, nous connaissons des amis, des parents, des voisins qui souffrent dans le divorce. C'est triste que les personnes qui ont la responsabilité de mener les affaires du pays se trouvent dans ces situations. On doit prier pour les autorités. On prie souvent qu'elles nous laissent la liberté de nous réunir et de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu dans notre pays. On prie pour leur salut. Mais je dois dire que j'ai jamais prié pour le bonheur conjugal de nos responsables. Pourtant, c'est une chose importante de savoir qu'il y a un président qui a une solitude poisseuse qui lui colle à la peau maintenant, ça n'augure rien de bon. Est-ce qu'il ne va pas nous lancer dans des aventures pour se changer les idées? Non, je plaisante, mais voyez le sérieux de ces choses. Encore une fois, si mon mari n'est pas chrétien, est-ce que je dois divorcer? Non, Pierre a déjà donné la réponse dans 1 Pierre 3. Ce principe de soumission, je veux le rappeler aussi, il n'est pas enseigné comme ça une fois par hasard dans un verset. Si c'est clairement expliqué, c'est une chose à considérer, mais on voit qu'il est partout dans la Bible. 1 Pierre 3, verset 1. Vous de même, femmes, Soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Si vous êtes marié à un non-chrétien, vous pouvez prier que cette personne vienne à Christ et vous pouvez prier que Dieu vous donne la force d'être un exemple de pureté et de dévotion à Dieu. Et j'ai vu cela dans ma vie. J'ai vu une sœur de Nancy qui s'était mariée avec un non-chrétien. Une sœur, elle était chrétienne. Elle était tombée dans le péché avec un homme qui n'était pas chrétien. Elle est tombée enceinte. Elle a choisi de l'épouser, ce qui était, je crois, à ce moment-là, la chose à faire. Et pendant des années, elle allait à l'église et son mari restait le dimanche matin à voir les matchs de baseball, c'était aux États-Unis. Mais elle a prié, beaucoup ont prié pour lui, et elle a mené une vie pure, elle a mené une vie exemplaire. Et finalement, Dieu a pu amener cet homme à lui. Pas seulement qu'il dise, bon ben d'accord, je viendrai une fois de temps en temps le dimanche. Non, il est devenu chrétien, il s'est engagé, il est allé à l'école biblique, il est devenu missionnaire, il a planté 2 églises au Mexique. Il a travaillé dans le Midwest aux États-Unis. Ses enfants, dont certains connaissent Alexa, qui était ici, il repart maintenant au Mexique. Il n'était pas chrétien. Sa femme n'a pas dit, puisque c'est ça, je te quitte, je vais trouver un gentil petit chrétien. Non, elle a obéi la parole de Dieu et Dieu bénit l'obéissance à sa parole. Encore une fois, c'est quelque chose dont il faut être convaincu pour pouvoir recevoir des enseignements comme aujourd'hui et décider, avec l'aide de Dieu, de les mettre en pratique. Pour les personnes mariées que je connais ici, je crois que quelque part, on a tous des femmes très capables. On a des femmes, on dirait entre guillemets, des femmes fortes, des femmes qui ont du tempérament, du caractère, des idées, qui les défendent bien. S'il y a un concept égalitaire dans le mariage, ça va tant qu'on est d'accord. Mais lorsqu'il y a un différent sérieux sur l'éducation des enfants, sur la marche à suivre, sur est-ce qu'on s'engage dans le ministère à temps plein ou pas, s'il y a une différence, il va y avoir la seule solution. C'est pour ça qu'il y en a tant, c'est le divorce. Diverger, les divergences et divorce, c'est le même mot. Ça veut dire qu'on ne va pas ensemble. Et ça, c'est pour la partie adressée aux femmes. Alors, je voudrais passer quand même autant de temps sur la partie qui s'adresse spécifiquement aux hommes. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Les femmes sont appelées à se soumettre et les maris sont appelés à aimer. Vous avez sans doute entendu qu'en grec, il y a 4 mots qu'on traduit par le mot aimer. Il y a le mot eros, ça c'est l'amour romantique, l'amour sexuel, qui est bien connu avec le monde érotique, le mot érotique. Il y a un autre mot qui est le mot qui part de l'amour filial. On est choqué lorsqu'on entend qu'une maman a tué des bébés. Dans les journaux, il n'y a pas longtemps, dans les nouvelles, il y a un cas d'une mère qui aurait mis à mort des bébés. Cet amour filial, il faut être malade quelque part, psychologiquement, profondément, psychiatriquement, pour ne pas pour ne pas l'exercer. C'est l'amour qui existe entre les membres d'une même famille. Et puis l'autre mot, c'est le mot qui parle de, qui fait penser davantage à la camaraderie. On est bien avec quelqu'un parce qu'on aime bien faire des choses ensemble. C'est les copains, c'est les copines. Et puis il y a ce mot d'agapé, d'agapéo, qui est l'amour venu d'ailleurs. C'est pas un amour qu'on peut créer nous-mêmes. Romains 5, 5 nous dit que c'est le Saint-Esprit qui déverse dans nos cœurs ce genre d'amour. C'est l'amour sacrifice. On peut dire, Eros, c'est je t'aime parce que pour ce que tu m'apportes. Philéo, c'est Storgé, c'est l'amour filial. Je t'aime parce que nous sommes appelés à nous aimer dans une cellule de famille. Philéo, c'est je t'aime parce que j'aime qu'on fasse des choses ensemble. Mais agapé, c'est je t'aime parce que j'ai décidé de t'aimer. Même si tu ne m'aides pas, même pas en retour, c'est l'amour de Dieu qui nous aime, qui nous a aimés le premier alors que nous le rejetions, qui nous a aimés alors que nous l'ignorions et nous le maudissions si nous parlions de lui. Cet amour sacrifice, c'est l'amour qui est prêt à mourir pour l'autre. L'homme, dans la relation de mariage, doit être prêt à mourir pour sa femme. Le Christ l'a fait pour l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Pour la sanctifier, pour la mettre à part, pour la rendre sainte, après l'avoir purifiée par l'eau, on pense que c'est peut-être l'eau du baptême, et la parole, c'est la parole prononcée. Il y a deux mots pour parole. Il y a en grec, il y a le mot logos, la parole de Dieu, qui est la vérité. Et puis il y a la parole qui est prêchée, la parole qui est annoncée, c'est le mot rhéma. Dieu, Jésus-Christ, a sanctifié l'Église en la sanctifiant par l'eau et par sa parole, lorsqu'il a parlé. Son but, c'est de faire paraître devant lui une Église glorieuse et sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. La semaine dernière, on parlait avec des étudiants et j'ai rencontré une jeune fille qui était une chrétienne engagée il y a quelques années, mais elle est partie, elle a laissé tomber les réunions, et maintenant elle est contre l'Église. Elle dit croire en Dieu, mais elle dit l'Église est pourrie, l'Église est, c'est tout des gens qui t'imposent des choses, etc. En fait, j'ai essayé de lui expliquer, c'est vrai que les églises locales sont composés d'hommes et de femmes qui sont des pécheurs. Il n'y a pas d'église parfaite. S'il y en avait une, dès que je m'y associe, dès que je commence à y aller, l'église cesserait d'être parfaite. Est-ce qu'il y a des gens parfaits ici qui lèvent la main? L'église, elle n'est pas parfaite, mais Christ est en train de travailler. Il est à l'œuvre. Il la sanctifie, il la rend de plus en plus semblable à lui. Et l'Église, elle va terminer par être glorieuse, sans tache ni ride. Quelle est la différence entre les taches et les rides? Les taches, c'est la corruption qui vient de l'extérieur, la pollution qui vient de l'extérieur. Ce matin, j'avais mis un pull, puis j'en ai changé parce que j'ai vu qu'il y avait des taches dessus. Les taches ne sont pas venues de moi, elles sont venues de l'extérieur. Il pourrait y avoir des auréoles sous les bras, mais c'est une autre situation. Les limites des illustrations du pasteur. Par contre, les rides, c'est une corruption qui vient de l'intérieur. J'ai des rides qui apparaissent. Vous, mesdames, vous n'en avez pas encore. Personne n'en a. Mais ça vient parce que nous prenons de l'âge. Notre corps se corrompt à l'intérieur. Notre tente se détend. Elle devient usée. Christ va la faire paraître sans tache ni ride. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Aimer ma femme, c'est être égoïste. Si nous sommes mariés devant Dieu, nous faisons une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Et il dit, personne, à moins d'être aussi, encore une fois, dérangé psychiatriquement ou psychologiquement, normalement, on se soigne bien. Lorsqu'on se fait du mal à notre propre corps, que ce soit anorexie, boulimie, que ce soit des scarifications, des mutilations, c'est qu'il y a un grave problème psychologique. Mais au naturel, on se soigne bien. On mange, on essaye de prendre soin de notre propre corps. Jamais personne, en effet, n'haït sa propre chair dans ce sens-là, mais il la nourrit, il en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. L'homme est invité dans le mariage à aimer sa femme de façon sacrificielle, en la nourrissant, non seulement en amenant du pain sur la table, les femmes sont tout à fait capables de travailler aussi et d'amener du pain sur la table, mais en la nourrissant émotionnellement, en la nourrissant spirituellement, en la nourrissant physiquement. Il y a trois relations, trois niveaux de relations dans le mariage qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Et lorsque l'on néglige l'une ou l'autre, ou plusieurs, on se promet des lendemains qui ne chantent pas. Christ prend soin de l'Église. Christ dirige l'Église. Christ nous protège. Christ, par son Saint-Esprit, nous influence, nous dirige. Parce que nous sommes membres de son corps. Il est la tête, nous sommes les membres. Et encore une fois, ce verset de la Genèse est rappelé. C'est pourquoi l'homme quittera sa mère et quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est une chose très importante d'assumer l'autonomie du couple. Après Dieu, la première priorité d'un homme, c'est sa femme. Ça doit être sa femme. Ce n'est pas son travail, ce n'est pas son ministère. Et je le dis d'autant plus humblement que bien souvent, je néglige Nancy par rapport au ministère. Je suis plus soucieux de ce qui se passe ici que de prendre un peu de temps pour la nourrir et la chérir, de prendre soin d'elle. Si vous êtes dans le ministère ou si vous avez un travail, peut-être que vous vous dites le travail c'est tellement important que c'est moi qui ramène, qui permet qu'on ait un logement, de la nourriture, de payer les factures des enfants. Non, votre première priorité après Dieu, c'est votre époux, c'est votre épouse. Alors encore une fois, je sais que parmi nous, il y a des célibataires, il y a des gens divorcés, il y a des gens qui ont des enfants sans être mariés. L'idée n'est pas de culpabiliser, mais d'intégrer ces principes. Pour vous qui êtes trop jeunes encore pour être mariés, qui êtes étudiants, c'est des choses à savoir. Pas mauvais d'être une femme forte, d'avoir des ressources, de poursuivre des études, mais sachez que dans le mariage, il y a un ordre à respecter. Et cet ordre, s'il n'est pas respecté, encore une fois, le mariage est affaibli, le mariage est mis en péril. Comme dans l'armée. Alors une fois de plus, nous sommes mariés à des femmes qui ont du caractère, des femmes qui sont intelligentes, des femmes qui ont souvent des bonnes idées. Et j'ai découvert avec Nancy que ce qui comptait, ce n'était pas nécessairement de faire ce qu'elle pensait être la juste chose, si j'étais en désaccord avec elle, Mais c'était au moins quel est le sentiment que j'avais écouté ce qu'elle avait à dire. Et je peux vous garantir que je fais attention à ce qu'elle me dit, parce que l'expérience a prouvé qu'elle avait souvent beaucoup de sagesse et que je serais un fou de pas considérer, de pas évaluer une suggestion qui m'est faite. Lorsque j'ai senti un appel de Dieu pour quitter l'Amérique, quitter un travail, une vie confortable, Nancy avait vécu en France. Tout ce qu'elle se souvenait en France, de la France, c'était les bureaux de poste où elle se faisait martyriser par les petites dames avec leurs parapluies. Elle attendait des heures dans une file et puis c'était la mauvaise file. On lui passait devant. Elle n'avait aucun désir de revenir en France. Lorsque je lui ai dit que je me sentais appelé à venir en France, sa première réaction, c'est « tu iras sans moi ». Si on avait été dans la notion de mariage égalitaire, ça fait longtemps qu'on aurait été séparés. Et on ne serait pas ici. Vous ne seriez pas ici. Vous seriez, j'espère, ailleurs, bien nourris, et le Seigneur aurait pris soin de vous d'une autre façon. Mais elle savait, parce qu'on commençait à essayer d'intégrer ces principes de vie chrétienne, elle savait qu'elle devait se soumettre et que moi, je devais l'aimer. Et elle a commencé à prier pour que le Seigneur change son cœur. Et encore une fois, je n'ai pas voulu manipuler ou dominer. J'ai prié pour que le Seigneur lui montre la validité de cet appel. Et ça, dans vos couples, c'est la même chose. Je crois que l'homme doit d'abord aimer. C'est très difficile d'être prêt à sacrifier sa vie. Mais si votre femme sait que vous êtes prêt à donner sa vie pour elle, que vous la respectez, que vous l'aimez, voilà, le respect, on va voir, c'est vraiment le truc de l'homme. Le truc de la femme, c'est l'amour. Le truc de l'homme, c'est le respect. Je peux respecter ma femme, si je ne lui montre pas de l'amour, ça ne va rien faire. Ma femme peut m'aimer si elle ne me respecte pas, elle me dit « tiens, bon à rien, tu as encore fait une erreur », ça ne va rien faire pour avancer les choses dans le mariage. Dieu nous a créés. Il connaît la façon dont nous sommes faits à l'intérieur. Ce qui compte le plus pour l'homme, c'est qu'il soit respecté par sa femme. Ce qui compte le plus pour la femme, c'est qu'elle soit aimée par son mari. Il est facile, je crois, pour une femme de respecter et de se soumettre, se placer sous la direction. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle ne peut pas faire valoir son avis ou être en désaccord et l'exprimer. La soumission, ce n'est pas quelque chose de servile, ce n'est pas quelque chose d'humiliant. La soumission, encore une fois, c'est une position dans une structure qui permet à la structure de fonctionner. Et donc, cette femme, si elle sait que son mari l'aime, elle ne va pas avoir de problème à se soumettre. Et je connais des chrétiens, des couples chrétiens. Il y en a, vous avez la bénédiction, et je ne parle pas pour moi et Nancy, mais nous avons des couples chrétiens qui sont des exemples de cet amour et de cette soumission. Et on voit le fruit que ça donne. Les oiseaux chantent de joie. Parce qu'il y a une harmonie dans le couple. Il y a des enfants qui sont élevés dans les voies du Seigneur. Il y a du fruit qui est amené dans la vie. On peut avoir des femmes fortes, des maris qui n'aiment pas leur femme, on voit des divorces, on voit des familles brisées, on voit des familles recomposées, des familles décomposées, on voit beaucoup de souffrance. Pourquoi ? Parce que l'homme pense qu'il sait mieux que Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Il a, encore une fois, c'est nullement dit dans un esprit machiste, dans un esprit, il y a des fois je préférais ne pas avoir à diriger et être celui qui prend la décision. C'est plus facile, quelque part. On vit dans un monde où, dans le domaine du travail, des occupations, c'est vrai que la femme a montré qu'elle est tout aussi capable d'accomplissement, de réussir des choses. Dans le monde de la politique, on voit une ouverture, on voit des chefs d'État qui sont des femmes, qui s'en sortent très bien. Mais dans le domaine du mariage, Dieu a institué une hiérarchie qu'il a voulu pour notre bonheur. Nous avons la joie de, parce que nous sommes une église où il y a pas mal de jeunes, de célébrer des mariages. Et lorsque nous le faisons, nous aimons bien faire une préparation au mariage pour revoir les principes bibliques. Et le passage où il est question de soumission, c'est toujours un moment intéressant. Parce qu'on voit que même avec la meilleure volonté de vouloir plaire à Dieu, ça va tellement contre le grain de ce monde que c'est difficile pour vous, mesdames et mesdemoiselles. Ça devrait être aussi dur pour les hommes lorsqu'il est dit qu'ils doivent être prêts à mourir pour leur femme. On peut aimer en espérant quelque chose en retour. Là, il est question d'aimer la femme même lorsqu'elle n'est pas aimable. Même lorsqu'elle n'est pas désirable, même lorsqu'elle n'est pas plaisante. C'est une décision, encore une fois. C'est pas l'amour agapé, c'est pas un amour sentiment. C'est pas le filéo, j'aime bien être avec toi parce qu'on fait des choses agréables. Non, l'amour agapé, c'est une décision. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Paul parle de la dimension spirituelle de la chose et dit qu'en fait, il y a un grand mystère. Je disais que le sexe, c'est l'idée de Dieu. C'est lui qui nous a créés différents, hommes et femmes, pour qu'ensemble nous formions une chair, qu'on puisse procréer. Un des deuxièmes objectifs du mariage, bien sûr, c'est la continuation de la race, la procréation. Il était une époque dans les milieux chrétiens où seule la procréation était validée et honorée. Tout ce qui pouvait être plaisir sexuel ou plaisir de compagnonnage, c'était quelque chose de secondaire ou d'interdit. Encore une fois, il n'est pas bon pour l'homme de rester tout seul. Et de la même façon, je pense que pour la femme, il n'est pas bon de rester seul. Si vous êtes célibataire, si vous avez à cœur, Dieu peut appeler certains à rester célibataires. Il vous donne un don où vous pouvez vous impliquer dans la vie, dans l'Église, avoir toute votre place, toute votre valeur, tout en restant célibataire. Souvent, les femmes restent célibataires parce qu'elles n'ont pas trouvé encore l'homme ou l'homme chrétien. Là, je crois que c'est très important de rester fidèle et d'attendre de Dieu qu'il vous amène la personne qu'il a pour vous. Dieu ne veut pas vous faire souffrir. Si c'est un désir qu'il a mis dans votre cœur d'être uni à un homme ou d'être uni à une femme, n'essayez pas de prendre les choses en main, de régler l'affaire vous-même, ou quitte à prendre un non-croyant parce que vous n'en pouvez plus. Et à Calvary, il n'y a pas assez de gars ou il n'y a pas assez de filles, ceci ou cela. Non, faites confiance à Dieu. Il y a un mystère. Alors ça ne veut pas dire quelque chose qu'on ne comprendra jamais, ça veut dire quelque chose qui n'avait pas été révélé jusqu'à présent. Le mystère du Christ et de l'Église. Et pour moi, ça c'est pas biblique, c'est mon impression, je l'ai déjà partagé, peut-être certains ont entendu et ne sont pas d'accord, mais peu importe, je vais simplement dire que Dieu aurait pu choisir un autre moyen que la sexualité pour la reproduction de l'espèce. Il aurait pu faire que, comme pour certaines plantes, on puisse faire des boutures. On prend la dernière phalange du petit doigt, on la met dans du terreau, on arrose pendant 6 mois, et il y a quelque chose qui va naître. Pourquoi pas ? Ce serait beaucoup moins drôle, hein ? Peut-être plus facile, mais moins drôle. Je crois qu'il a choisi la sexualité, il a choisi cette relation d'intimité incroyable que le diable aime pervertir et utiliser à ses propres fins pour faire dérailler les plans de Dieu, pour illustrer, pour nous permettre d'illustrer la relation qu'il veut avoir entre nous, entre lui et les hommes et les femmes. Il veut cette relation d'intimité au point que il forme une épouse, c'est l'Église, l'ensemble de tous les croyants, et qu'il va y avoir un mariage avec Jésus-Christ, les noces de l'agneau. Et je crois que l'illustration, elle n'est pas pour nous faire comprendre ce qu'est le mariage humain. Le mariage humain est là pour nous faire comprendre ce qu'est la réalité spirituelle de la relation que Dieu attend entre les hommes et lui-même. Cette soumission dont il avait été question au verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ », elle n'est possible que si on est rempli du Saint-Esprit. Ça rejoint le verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez continuellement en train d'être rempli de l'Esprit. » Si nous voulons avoir cet amour agapé, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui le déverse dans nos cœurs. Pour les hommes, si la femme veut être prête à se soumettre dans la confiance, dans la foi, et encore une fois, c'est inconditionnel cette soumission. C'est pas de dire « je vais me soumettre s'il est gentil avec moi ». Ou l'homme n'a pas à dire « je vais l'aimer sacrificiellement si elle se soumet à moi, si elle me montre du respect ». Dieu donne à l'homme et à la femme son mandat. Est-ce que vous croyez que si chacun le respecte, il ne va pas bénir votre mariage, votre futur mariage ? Faites confiance à la parole de Dieu. Encore une fois, vous pouvez suivre le monde et voir les résultats qui vous attendent. Encore une fois, vous pouvez faire confiance à Dieu par la foi et marcher et mettre en pratique ces principes dans votre vie. Encore une fois, ce n'est pas facile. Tout au long de vos journées, tout au long de vos études, de votre travail, c'est la libération de la femme. Il y a même des évangéliques féministes qui revendiquent l'égalité, qui disent que ces versets sont liés à la culture de l'époque. Non, c'est un mystère qui s'applique au Christ et à l'Église, c'est un mystère pour toujours. C'est une chose qui est universelle. On verra aussi que cette soumission, elle doit se traduire par une soumission des enfants à leurs parents, une soumission des employés à leurs employeurs, et toute cette harmonie de société, cette hiérarchie, elle va fonctionner si nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Voilà, j'espère que vos cœurs sont ouverts à cet enseignement. Ce n'est pas un enseignement de macho. On reproche souvent à Paul d'être un macho. Il a sans doute été marié, comme Pierre, le pape, le premier pape, puisqu'il avait une belle-mère, il devait avoir une femme. Paul était membre du Sanhédrin, il fallait être marié pour être membre. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, les enfants, les parents sont les chefs des enfants. Il y a une hiérarchie qui est faite pour l'harmonie, pas pour la brimade, pour l'oppression, pour le mal, mais pour le bien. Prions. Seigneur, tu veux que nous soyons soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, toi qui es le chef de l'Église, Jésus-Christ. Nous savons que cet enseignement va à l'encontre complet, c'est presque une caricature de l'opposition à l'enseignement prévalent dans notre société, au politiquement correct, à ce qui prévaut dans notre société. Et pour toi, Seigneur, on voit les maux et les douleurs. Les douleurs, cette solitude poisseuse qui oppresse, qui naît de la privation de l'écoute, du soutien, du regard de l'autre, celle qui fait oublier le sentiment d'aimer et d'être aimé. Seigneur, aide-nous à comprendre que tu veux notre bien, que tu ne mets pas ces paroles pour que nous les imposions à les uns aux autres, Seigneur, mais tu nous parles directement à chacun, directement au cœur, Seigneur. Apprends-nous à recevoir ces paroles dans la foi, en te faisant confiance pour être celui qui veut notre bien ultime, Seigneur, le bien de nos enfants, le bien de notre société. Seigneur, ma prière, c'est que tu permettes à ces valeurs d'être réaccaparées par ton Église. On sait que le taux de divorce est pareil dans l'Église que dans le monde, Seigneur, parce que les gens ne mettent plus en pratique ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour nos épouses, merci pour leur respect, merci pour toutes leurs qualités. Aide-nous à les aimer sacrificiellement, Seigneur. Pardonne-nous quand nous les aimons pour ce qu'elles peuvent donner en retour, l'entretien, la sexualité, ces choses-là, Seigneur, apprends-nous à donner sans rien attendre en retour. Seigneur, donne aux femmes de pouvoir, par la foi, parce que c'est ta volonté, pour te plaire, Seigneur, être soumises à leur mari. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui ne sont pas dans cette relation de mariage, qui y aspirent ou qui en sont sortis et qui souffrent peut-être. Merci de mettre le baume de ton Saint-Esprit sur eux, toutes ces douleurs au quotidien, toute cette solitude. Apprends-nous à te faire confiance, Seigneur, pour notre plénitude dans la vie comme tu l'as prévu, Seigneur. Sois glorifié dans nos cœurs, dans nos mariages, dans nos familles, Seigneur, dans cette Église. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen.